Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! Dans un pays riche en ressources, elles ont marqué le territoire, la culture et l'imaginaire collectif. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, les villes de Compagnie, de Shawinigan à Arvida, de Noranda à Schefferville.
Oui, ça devait évidemment, dans le passé, le bois allait à la ville, alors qu'actuellement, ce qu'on a fait, nous, c'est la ville est allée au bois. Alors, nous avons pensé de construire la ville près, dans la forêt même, pour nos employés, soit du moulin ou des opérations forestières.
L'exemple de Lebel-sur-Quévillon, une création de la compagnie Domtar en 1965. On les trouve autour des usines, des mines ou des champs pétrolifères. Au Canada, plus que partout ailleurs, des entreprises ont planifié des villes et repoussé les frontières pour en faire, dans certains cas, des cités modèles. La ville planifiée ne laisse place à aucun laisser-faire. Tout est pensé, géré et organisé par la compagnie. Un paternalisme d'entreprise, parfois source de conflits.
C'est un fait que des centaines d'autres peuvent confirmer. Pour bien gagner et bien vivre sa vie, il n'est pas d'endroit dans tout le nord canadien qui se compare à Noranda. Ici même, les jeunes peuvent avoir leur propre maison. On trouve à portée de la main tous les services publics d'une petite ville modèle, l'eau courante, l'électricité. Une foule de jeux bien organisée. Il y a même une grande piscine en plein air. Un centre de loisirs doté d'un gymnase. Et pour la saison du hockey, un aréna de 2000 places. L'hôpital Duville, avec ses 200 lits et ses salles d'opération superbement équipées. Un centre d'achat qui répond à tous les besoins de la population. Et cette ville modèle, on la doit à la richesse de la mine Horn.
Les merveilles de la nature, c'est le titre de ce film des années 50 qui raconte la naissance de Noranda, création d'une entreprise aujourd'hui bien connue, la fonderie Horn. Alors pour nous parler de ces villes de compagnie, mon invité, Harold Bérubé, il est historien, professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke avec nous en studio. Bonjour, merci d'être là.
Bonjour, ça fait plaisir.
Commençons par la définition. Hein. On parle de ville de compagnie, ville mono-industrielle, ville planifiée. Qu'est-ce que c'est exactement?
On utilise différents termes. Définir la ville de compagnie ne va pas nécessairement de soi. Disons qu'à la base, on peut parler d'une ville qui a été, disons, conçue, planifiée en partie ou entièrement par une entreprise. Généralement, cette entreprise, donc évidemment, y installe ses propres installations, mais en plus, elle est généralement conceptrice et propriétaire d'une partie, disons, du parc locatif, des résidences. On va vouloir y loger, donc, ses travailleurs et ses travailleuses. Donc, on parle par définition généralement des agglomérations de petite taille. Ceci dit, il y a quand même une assez grande variété de cas de figure à partir de cette définition de base. Mm-hmm. Donc, d'abord, une variation parfois au niveau de la conception. Certaines de ces villes-là sont vraiment conçues mur à mur, planifiées entièrement par l'entreprise. Dans d'autres cas, on va avoir affaire à des lotissements, disons, de taille plus modeste qui s'inscrivent peut-être là, dans une ville ou un village qui existe déjà. Ensuite, il y a des différences au niveau de la localisation. Certaines de ces entreprises vont créer des villes de compagnie, donc, disons, dans des zones éloignées, marginales, pour rejoindre une ressource. On va parler alors là, de villes extractives, disons.
Oui, oui. Et... Lebel-sur-Quévillon, ça.
Oui, c'est un excellent...
C'est loin.
À fait. Et dans d'autres cas, il s'agit plutôt de s'installer en périphérie, peut-être de grands centres de villes. Puis là, il s'agit d'installer des installations manufacturières. Donc, on a un autre type de ville, si vous voulez. Autre variation, là, un peu de la question de la propriété, justement, des logements. Parfois, on va les vendre. Parfois, on va les louer aux travailleurs. Il y a aussi des variations importantes en termes de contrôle. Certaines de ces communautés-là sont contrôlées étroitement. La résidence, la planification, même les commerces sont entre les mains de l'entreprise. Dans d'autres cas, le contrôle est un peu plus souple. La qualité du logement aussi varie beaucoup. Dans certaines d'entre elles, c'est, disons, minimaliste. Hein, on répond minimalement aux besoins des travailleurs. Mais il faut le dire, dans d'autres, on leur offre, là, on essaie justement d'attirer la force de travail avec des logements là, qui sont à l'avant-garde des technologies de l'époque, qui intègrent toutes sortes là, d'innovations, la plomberie, l'électricité là, à une époque. Et finalement, il y a l'étendue du contrôle de l'entreprise. Dans certains cas, elle contrôle littéralement le gouvernement municipal. Dans d'autres, il y a une certaine autonomie. Mais donc, toutes ces variations variations s'inscrivent, disons, sous la grande étiquette ville de compagnie.
Oui. Mais pourquoi elle crée des villes comme ça? Pourquoi elle se donne autant de mal à créer des villes littéralement, là?
Oui, c'est une bonne question, hein, parce que c'est un gros investissement en termes de capital, d'efforts. Oui. C'est un risque aussi quand même important que prennent les entreprises. Donc, je dirais qu'il y a des raisons de type, disons, pratique, puis des raisons de nature plus idéologique. Au niveau pratique, c'est clair que dans certains cas, il s'agit de courir après une ressource, il s'agit de se rapprocher de ce dont on a besoin pour produire, peu importe ce qu'on produit. On va se rapprocher de la forêt, on va se rapprocher de certains minerais, on va se rapprocher de sources de force hydraulique, par exemple. Mm-hmm. Donc, on se déplace à ces fins-là. Également, dans certains secteurs, on a besoin d'espace. À mesure que la révolution industrielle avance, les installations grossissent, donc les centres-villes sont pas assez grands pour loger ces installations-là. Mais c'est intéressant parce qu'il y a ces raisons de nature plus idéologiques. On s'entend que la recherche du profit prime dans la plupart de ces entreprises. Mais plusieurs de ces villes-là sont le fruit d'un certain idéalisme, d'un certain paternalisme philanthropique. On espère créer des villes dans lesquelles les travailleurs vont être protégés, sauvés de certains des périls qu'on associe souvent à la ville. Donc, des endroits où il n'y a pas de débit de boisson, endroits où il n'y a pas de syndicat, des endroits où, justement, on s'éloigne quand même des quartiers ouvriers qui sont véritablement dégradés, puis on offre, dans le fond, aux employés des logements de bien meilleure qualité, plus basse densité, moins de pollution, etc. Donc, il y a quand même parfois, disons, on pourrait parler d'une sorte de capitalisme avec une conscience dans ce cas-là, mais évidemment avec un tournant de très paternaliste, l'idée de contrôler quand même la force de travail et de la tenir un peu là, sous sa surveillance, supervision quand même d'assez près.
Oui. Puis en général, ces villes-là, quand on décide de les construire, hein, elles sortent de terre assez rapidement. On va écouter un exemple ici, ben justement dans le nord, à 150 km de Val-d'Or, donc on est, là dans une zone éloignée, Lebel-sur-Quévillon, création de la papetière Domtar en 1965, c'était à notre télé, janvier 1967.
Lebel-sur-Quévillon, 60 milles au nord de Sainte-Terre, dans le nord-est de l'Abitibi. Il y a 2 ans seulement, dans ce pays désolé, on aurait trouvé quelques camps de bûcherons perdus dans la forêt et quelques villages tous semblables. Un hôtel, un poste d'essence et quelques dépendances construits à proximité d'un moulin à scie pour desservir les bûcherons de passage. Les hommes sont arrivés par centaines à partir de 1964, de tous les coins du Québec et du Canada, pour la construction de la fabrique de pâte à papier Domtar. Nomades modernes, ils sont repartis vers d'autres chantiers à la fin de 1966. Ils ont laissé derrière eux, à 60 milles du centre urbain le plus rapproché, une usine de 80 millions de dollars et une ville entière, édifiée en moins de 6 mois.
Ah, voilà. Les compagnies le font certainement par souci mercantile. Une usine à ce prix-là, bon, oui, il faut faire de l'argent. Mais vous l'avez dit, il y a certaines compagnies qui en font des villes modèles à l'avant-garde de la planification en matière d'urbanisme. Hein. Alors pourquoi ce souci? Pourquoi cette préoccupation d'être à l'avant-garde, puis parfois même de faire appel à des urbanistes de renom pour planifier, penser, dessiner ces villes-là?
Oui, bien, il y a une sorte d'élan presque utopiste dans la création de certaines de ces villes. Une des premières auxquelles je peux penser, New Lanark en Écosse, qui est probablement une des premières. Là, on est en 1785. Son promoteur est un certain David Dale. Ici, on a quand même une sorte d'utopisme socialiste ouvrier, disons. Il va s'agir là, c'est tout petit, mais on va y construire donc un moulin sur la rivière Clyde. On y fabrique on y traite le coton et on va construire un logement ouvrier, bon, qui est très modeste pour l'époque, mais l'idée est d'avoir des ouvriers qui vivent dans des conditions plus saines qu'en ville. L'idée de créer une sorte de sentiment communautaire. On a l'impression que ça va favoriser les forces du travail et tout ça. Et New Lanark est le premier exemple comme ça d'une ville qui est entièrement conçue par un seul homme et ses associés et vraiment qui s'inscrit dans ce genre d'idéalisme. Et ça va quand même fonctionner puisque de 1785 à 1968, le moulin tourne d'une façon ou d'une autre. On s'entend qu'on va éventuellement s'éloigner des racines utopistes de la chose. Mais dès le départ, il y a cet élan-là qui est bien présent donc en Europe où va commencer un peu ce phénomène là, des villes de compagnie.
Avant d'arriver ici, bien sûr, vous dites l'Europe, mais l'Amérique du Nord, et je lisais que le Canada est probablement les endroits dans le monde, avec les États-Unis, où on en compte le plus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un pays de ressources?
Ah oui, l'Amérique du Nord est... Donc, le phénomène commence en Europe, mais l'Amérique du Nord est comme le terreau parfait pour les villes de compagnie. Pour plusieurs raisons, effectivement, l'abondance des ressources naturelles, et souvent les villes de compagnie servent essentiellement à aller chercher ces ressources-là, les exploiter. De vastes espaces, même pour les installations de nature industrielle, l'espace ne manque pas en Amérique du Nord. Et il faut le dire, on est dans donc deux pays, le Canada, les États-Unis, où la culture politique, surtout aux États-Unis, laisse des coups de franche au privé. Donc, l'idée que des entrepreneurs créent des villes, administrent des municipalités, tout ça à l'extérieur de toute forme de gouvernance publique, mm-hmm. c'est quelque chose qui est assez bien accepté. Plus au sud de la frontière, on s'entend, mais c'est un modèle qui passe quand même bien au Canada, là, il faut le dire.
Ouais. Ben, évoquons justement aux États-Unis, est-ce qu'il y a des villes modèles comme ça, des cas de figure de, des villes de compagnie?
Absolument. Il y en a qui sont très éclairants pour ce qui est de l'histoire des villes de compagnie. Aux États-Unis, elles apparaissent surtout au début du 19e siècle, dans les années 1820, beaucoup en Nouvelle-Angleterre, autour de l'industrie textile. Une des premières est Lowell, au Massachusetts, qui est un peu à l'extrême, disons, misérabiliste de la chose. Là. C'est-à-dire qu'ici, on crée un centre donc textile, et on va littéralement favoriser, on va recruter des femmes célibataires et un peu les arracher à leur milieu et les enfermer ensemble à Lowell dans des conditions de vie assez mauvaises et avec une sorte de régime disciplinaire là, très sévère en termes de vie de tous les jours. Donc ensuite, on a plusieurs villes comme ça de compagnie dans le secteur sidérurgique, minier, dans le charbon notamment, mais on va vraiment voir cet utopisme paternaliste apparaître, disons, à la fin du 19e siècle. Et là, il y a deux cas de figure intéressants qui nous montrent un peu les deux revers de la médaille. Le premier, plus joyeux, c'est la ville de Hershey, en Pennsylvanie, créée par Milton Hershey en 1903. C'est le chocolatier.
Le chocolat, là.
Exact. Oui. Et la ville, son petit côté sucré, hein. L'idée, c'est qu'elle est créée pour se rapprocher des fermes laitières, et on va chercher le lait pour fabriquer le chocolat. Mais en plus, Milton Hershey veut recruter donc une main-d'œuvre agricole. Donc, il veut les attirer. Il va vraiment créer... la qualité du logement est très élevée, mais ce qui est vraiment frappant, notamment de Hershey en Pennsylvanie, c'est tout ce qu'on va construire autour du logement pour attirer les gens. Donc, écoutez, des salons de bowling, des écoles de très bonne qualité, un zoo, un parc d'attractions, c'en est presque ridicule, tout ce qu'on va faire pour...
On est presque au cinéma, là.
Oui, on est presque au cinéma. Mais ensuite, il y a le côté sombre. L'autre exemple que je pourrais vous donner, c'est la ville de Pullman, en Illinois. Pullman, lui, n'est pas un chocolatier. Il fabrique donc George Pullman, il fabrique des wagons. Des wagons, donc, pour les passagers, les trains de passagers. Mm-hmm. Et Pullman est créé un peu dans le même élan. Il s'agit de sortir les gens. C'est créé tout près de Chicago. Donc
en périphérie là, c'est ça. Ouais.
Exact. Et il s'agit de sortir les gens de quartiers ouvriers très dégradés, mais aussi de les éloigner de l'influence des syndicats autant que possible. Et Pullman est quand même sur le plan urbanistique. C'est une ville planifiée. Les résidences sont de très bonne qualité, tout ça. Mais les employés payent leur loyer à l'entreprise, qui contrôle également une partie des commerces. Et là, dans les années 1890, crise économique, Pullman va faire beaucoup de mise à pied, couper dans les salaires, mais les loyers ne bougent pas. Mmh. Donc, ça crée beaucoup de ressentiment. Et en 1894, tout ça explose, à la fois à cause de ces injustices-là, mais aussi le sentiment d'être sous l'œil constamment du patron. Et l'ampleur de la grève est assez phénoménale. Hein. Ça va durer donc 2 mois. Il y a à peu près 250 000 de travailleurs à travers les États-Unis qui vont débrayer en solidarité avec les gens de Pullman. Il faut déployer l'armée. Il y a une trentaine de morts en tout et pour tout. Donc, c'est vraiment...
Une
crise, toute une affaire. Et c'est un peu la fin de cette expérience-là. Pullman va être annexé quelques années plus tard là, par la ville de Chicago. Puis on met fin un peu à l'expérience. Et ça montre un peu peut-être le côté plus sombre de ces villes de compagnie, du contrôle qui est exercé.
Oui, les limites, en tout cas. Oui. Hein. Bon, ce qui veut dire... ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas chez nous. Dans le cas du Québec, est-ce qu'on peut identifier clairement la première ville de compagnie au Québec?
Je suis toujours...
Faut pas mettre un nom dessus?
Ben, c'est ça, je suis toujours prudent d'identifier, là, tout à coup, que quelqu'un me sorte une
ville. Mais
écoutez, Shawinigan est une des premières grandes expériences en termes...
Même.
Et c'est une ville, donc, c'est la Shawinigan Water and Power. C'est une papetière. L'industrie du papier va vraiment être un joueur important dans la création de villes de compagnie au Québec. Donc, on peut parler de Shawinigan, créée à la fin du 19e siècle, contrôlée en bonne partie par l'entreprise. Également, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Riverbend, Kenogami, cette fois-ci, c'est l'entreprise, c'est la Price Brothers qui est derrière la création de ces villes-là. Donc, on est plus au début du 20e siècle. Et finalement, difficile de passer à côté du cas paradigmatique, hein, Arvida.
Parlons-en, Arvida, parce qu'évidemment, c'est la ville modèle. Hein. C'est un cas à part. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend Arvida si particulier? Arvida qui est près de Jonquière.
Oui, oui, exact. Ben, écoutez, c'est l'ampleur des moyens qui sont investis. Donc, on est dans les années 20. Quand on dit là, qu'elle est conçue mur à mur, elle est conçue finement, planifiée, produit par Alcoa. On met beaucoup de ressources, alors que dans certaines villes de compagnie, on s'entend, c'est plutôt rudimentaire comme planification. Ici, là, on est vraiment dans un exercice d'urbanisme étendu, planifié, étendu. Puis on a une entreprise qui va garder longuement, disons, le contrôle de ce secteur-là, s'assurer de son développement, etc., qui est aussi omniprésent dans les centres communautaires, les activités qu'on y retrouve. Donc, vraiment, une ville de compagnie disons, très développée par rapport aux différents modèles là, qu'on peut voir.
Bien pensé, bien planifié. C'est une ville propre avec des services, tout ça impeccable. Bon, quelques défauts quand même. On va écouter un extrait ici, justement. En mai 1965, à notre télé, Maurice Parent et Roland Lemieux, gérant de la cité d'Arvida.
Ici, Arvida, c'est une ville très jolie, bien entretenue, parfaite. On a l'impression que c'est tranquille.
Il y a des défauts.
Il y a des défauts, lesquels, alors? Dites-nous les défauts.
Les défauts, on est tous susceptibles d'amélioration, vous savez.
Arvida, avec quelques restrictions, évidemment, n'a pas pu, disons, emmener peut-être de ces cirques ou de n'importe quoi que les gens ont été voir ailleurs. Mais nous ne nous employons pas.
Ce n'est pas une ville ennuyeuse?
Pas pour ma part. Je pense qu'on développe de plus en plus, d'ailleurs, les loisirs. Vous allez voir qu'ici, à Arvida, vous avez un centre récréatif. Vous avez depuis une piscine qui est à veille d'être ouverte au public. Vous avez un aréna. Vous avez des centres de loisirs un peu partout dans les paroisses. Et je pense que ce n'est pas une ville ennuyeuse.
C'est une ville tranquille. C'est une ville où il y a le repos. Mm-hmm. À quoi est-ce dû? C'est assez difficile pour moi de vous dire, que je ne sais peut-être pas moi-même. Mm-hmm. Peut-être est-ce dû au fait qu'il y a beaucoup de jeunes couples ici, mm-hmm. et qu'au lieu d'aller passer leur soirée dans une boîte de nuit ou aller au restaurant, vont l'un chez l'autre. Et c'est peut-être une raison, je ne pourrais pas vous dire ça.
Merci, c'est que les jeunes filles de 20 ans sont à Jonquière.
Voilà, donc il profite de la ville d'Arvida. Mais je disais, gérant de la cité d'Arvida, c'est curieux comme appellation. Qui gouverne dans ces villes-là de compagnie?
C'est vraiment de leur particularité. Donc, ça nous amène un peu à la question de leur contribution et de leurs limites comme milieu de vie. Donc, sur le plan de la gouvernance, ce sont des villes qui, encore là, aux États-Unis, donc de nature plus privée, il y a des exceptions. Au Québec, on a quand même, il est difficile de contourner entièrement le régime municipal. Donc, ce que les entreprises vont faire, dans certains cas, leur contrôle est vraiment direct. Le cas de Noranda est frappant. Le premier maire de la ville, James Murdoch, c'est le président de l'entreprise. Donc, il va placer un certain nombre de ses cadres là, sur le conseil municipal. Donc, on voit souvent, surtout au début, ces villes-là, justement, être contrôlées presque directement. Là, les cadres, les patrons des entreprises se substituent à toute fin pratique aux autorités municipales et exercent un contrôle direct sur la ville. Ceci dit, l'influence va être plus souvent indirecte. Donc, dans ces villes, l'entreprise emmène tellement large que, de toute façon, si on y lit des maires, des échevins qui ne sont pas de l'entreprise, ils doivent quand même l'écouter, répondre à ses demandes, à ses doléances, surtout qu'elles pèsent lourd dans la balance. Donc, que le contrôle soit direct ou indirect, ce contrôle-là est très grand. On va quand même voir, dans la plupart des cas, il y a une sorte de processus d'autonomisation avec les années qui passent. Mm-hmm. Souvent, la population va demander quand même des comptes, demander un peu plus d'autonomie. C'est généralement ce qui va se faire. Pas toujours de manière sereine et pacifique, mais c'est généralement ce qui arrive. Ce qu'on va voir aussi souvent, c'est que les gens vont voter avec leurs pieds d'une certaine manière. S'ils sont mécontents dans la ville de compagnie où ils sont, ils vont se déplacer à proximité, ce qui va faire que souvent, à proximité de ces villes de compagnie, on va trouver une sorte de ville sœur qui, elle, échappe au contrôle de l'entreprise.
Jonquière, par exemple.
Jonquière, et apparemment, ces jeunes filles. Oui. Et on peut penser à Rouen aussi, près de Noranda, qui va également être un endroit, dans le fond, où on peut échapper au contrôle de l'entreprise, là, si on le désire.
Qui est juste à côté.
Oui.
Puis, dans certains cas aussi, la gouvernance, plus tard, elle est nommée par le gouvernement du Québec sur les recommandations de la compagnie, d'une part, et du syndicat, d'autre part. En tout cas, c'est un exemple assez original ici. Le maire de la ville de Fermont, en 1976, ce fut son cas. Jean-Claude Bénard, à l'émission Le 60.
Comme la population était toute nouvelle et pas assez nombreuse, c'est le gouvernement provincial qui a nommé les premières autorités municipales, maires et conseillers, sur recommandation de la compagnie d'une part et du syndicat d'autre part.
La distribution au conseil municipal est assez favorable pour la population, c'est assez représentatif. Je crois que moi-même, je suis assez représentatif. Nous avons deux membres qui sont des membres du syndicat. Deux autres sont des membres de la gérance et moi, je suis un membre de la gérance antérieurement du syndicat. Donc, je fais le point central.
La compagnie ne fait pas un peu ce qu'elle veut dans cette municipalité?
Aucunement. On est complètement autonome et on se veut autonome aussi. Parce que
Cependant, c'est elle qui est propriétaire du mur.
C'est ça, mais comme propriétaire, elle a seulement qu'un droit de vote et tous les autres propriétaires ont plusieurs droits de vote. Puis ça n'est aucunement la politique de la compagnie non plus, comme telle, de s'ingérer dans l'administration municipale. Je crois qu'ils n'ont assez d'opérer l'humaine sans opérer la ville.
Le cas de Fermont, donc, en 1976. Alors, dans ces villes, il y a des ouvriers, bien sûr, mais il y a aussi les cadres. Hein? Comment se fait la cohabitation? Est-ce qu'en général, même dans ces villes, il y a une séparation entre les cadres anglophones, la plupart du temps, et les ouvriers francophones?
Oui, c'est beaucoup ce qui est source, malgré ce qu'on vient d'entendre, effectivement, là, c'est ce qui est souvent source de tension dans ces communautés. Deux dimensions, justement, ce sont des communautés généralement beaucoup plus ségrégées que des villes, disons, traditionnelles, c'est-à-dire que, comme elles sont conçues généralement en un morceau, on va assez clairement délimiter donc, les secteurs qui vont être destinés aux ouvriers et les secteurs qui sont destinés au patronat. Au début du 20e siècle, d'ailleurs, cette ségrégation, elle est aussi ethno-linguistique. Hein. En général, c'est majoritairement des Canadiens français qui se retrouvent dans les quartiers ouvriers et dans les quartiers réservés aux patrons. Souvent, d'ailleurs, quand ce sont des entreprises britanniques, hein, elles débarquent avec leur propre leadership. Donc, ce sont des Britanniques qui se retrouvent entre eux dans ces quartiers.
Des gens de passage.
Oui, hein, oui, souvent, hein,
ils sont là quelques années. Là.
Exact, tout à fait.
Mais quand la ressource s'épuise, parce que souvent c'est ça, hein, c'est lié au pas des papiers, c'est lié aux mines. Le cas de Gagnon, hein, au nord de Baie-Comeau, est devenu tristement célèbre. La ville a été fermée, démantelée carrément. Alors, il se passe quoi quand les ressources diminuent comme ça?
Oui, bien, c'est un des grands défis. Le cas de Fermont, le cas de Gagnon nous rappelle que ce n'est pas une réalité lointaine, les villes de compagnie. C'est,
oui, oui,
c'est
ben un oui, phénomène. Le cas de Gagnon, ça a été fermé, si ma mémoire est bonne, début des années 80, autour de 85.
Oui, plusieurs problématiques liées aux villes de compagnie. Il y a la problématique donc, de l'épuisement des ressources qui fait justement que l'entreprise va à toute fin pratique abandonner le secteur. C'est quelque chose qu'on trouve aussi dans le secteur manufacturier. Toutes ces villes, par exemple, qui dépendaient de l'industrie textile, qui a été largement délocalisée dans les années 70-80, ont dû faire face un peu au même phénomène. Donc, on se retrouve avec des villes qui sont souvent, oui, bien planifiées, bien aménagées, mais qui tout à coup perdent leur raison d'être, leur principale...
L'usine n'est plus là ou en partie.
Exact. Une autre des problématiques importantes de ces villes de nos jours, notamment celles qui sont dans le nord, c'est un peu la question évidemment du rapport aux populations, par exemple, autochtones qui étaient sur le territoire, avec lesquelles la coexistence n'était pas toujours particulièrement heureuse, on s'entend. Et finalement, peut-être, dernière grande problématique, c'est la question un peu du patrimoine que ces villes laissent derrière.
Est-ce qu'elles ont une valeur patrimoniale? Je sais qu'Arvida est une ville protégée, c'est un cas
exact,
en soi.
Exact.
Mais dans d'autres cas?
Oui, je pense que oui. Dans plusieurs cas, il y a une valeur patrimoniale importante. La qualité du bâti est parfois intéressante. Les installations industrielles en soi peuvent l'être également. Et au-delà de leur qualité, disons, esthétique et architecturales, elles sont un important témoignage là, d'un phénomène socio-économique qui a vraiment marqué le territoire québécois, mais c'est tout un patrimoine aussi là, donc qu'il ne faut pas perdre de vue.
Oui, bien sûr, des souvenirs. Dans le cas de Gagnon, on a littéralement détruit.
Exact.
Bon,
oui,
il faut dire aussi que c'est une ville qui était très éloignée, à 300 km, si ma mémoire est bonne, au nord de Baie-Comeau. Fort intéressant, en tout cas, puis on aurait pu continuer parce que des exemples du genre, il y en a plein ailleurs au Canada, dans l'Ouest notamment.
Exact.
Mon invité, Harold Bérubé, professeur titulaire au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke, qui est avec nous en studio à Montréal. Merci, Harold.
Ça fait plaisir.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, à la recherche Ariane Léonard, Annie Richer, recherche d'archives Judith Roy et Sophie-Lyne Gibson, site Internet, c'est Ronald George, à la mise en onde Jean Lemieux, réalisation Jacqueline Castonguay. Ici Maxime Coutier, merci d'avoir été là. Bonne soirée. À une prochaine. Au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.